Vous êtes sur RTL.
8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, l'église dans le rouge.
À votre bon cœur, les évêques lancent un appel aux dons inédit pour renflouer les caisses qui sonnent creux depuis le début de l'épidémie. Les rentrées d'argent se sont effondrées, entre 40 et 50 millions d'euros de manque à gagner. Certaines églises ont même dû recourir aux prêts garantis par l'État. La sacro-sainte séparation entre l'église et l'État était quelque peu mise entre parenthèses le temps de la crise, mais ce sont donc par les dons des fidèles que les évêques espèrent s'en sortir, Marie Guerrier.
Oui, c'est un appel inédit pour une situation inédite. Donnez ce que vous n'avez pas donné pendant 10 dimanches. La quête dominicale, c'est de l'ordre de 3 à 5 millions d'euros chaque semaine. Alors faites le compte, il n'y a pas eu de messe 10 dimanches de suite, pas de cérémonie non plus pendant la semaine sainte avant Pâques, pas de mariage ni de baptême qui sont aussi des occasions importantes de dons. Il y a bien eu un dispositif de quête en ligne, mais ça n'a couvert que 10% des pertes. 45 000 personnes seulement se sont connectées. Comme les entreprises, les diocèses ont demandé des reports de charges, des reports d'échéances de prêts, mais une dizaine d'entre eux pourraient finir dans le rouge à la fin de ce mois de juin. L'Église ne vit que de dons et en temps normal, chaque diocèse vit de l'argent collecté sur son territoire. Chacun fait avec ce qu'il a. Mais cette fois, c'est vraiment la crise. Un système de solidarité entre diocèses vient d'être mis en place.
Marie Guerrier.
Les soignants à l'honneur le 14 juillet.
Et pour la première fois depuis 1944, il n'y aura pas de défilé militaire sur les Champs-Élysées. Contexte sanitaire oblige. À la place, une cérémonie restreinte, place de la Concorde, en hommage aux militaires, mais aussi aux soignants qui ont été à la pointe du combat contre le coronavirus. Des honneurs, des médailles, mais les intéressés attendent surtout des sous. En l'occurrence, une revalorisation des salaires. Reportage de Samuel Goldschmidt dans le Haut-Rhin, le département le plus touché par la pandémie.
Plongé dans l'épidémie pendant les semaines les plus terribles à l'hôpital de Colmar, Laurence et ses collègues sont bien étonnés de cette idée de 14 juillet.
Alors mes collègues m'ont chargé de dire que l'hommage aux soignants du 14 juillet, en fait on n'en a rien à fiche, poliment. On nous promet, alors on nous a promis une prime, comme ça les gens pensent bien qu'on a reçu une prime, qu'on n'a pas vue. On nous dit, on va vous faire un hommage, ben voilà, vous voyez, ça y est, vous avez eu l'hommage. En fait, finalement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez la reconnaissance des gens? Oui, c'est vrai, on a la reconnaissance des gens. On voudrait de la reconnaissance, mais de la reconnaissance, enfin, c'est pas juste merci, quoi. À un moment donné, il va falloir la payer, cette reconnaissance.
Louise, elle a vécu l'épidémie à l'hôpital de Mulhouse. Ça n'est pas le 14 juillet qu'elle attend.
On nous a promis beaucoup de choses. Hein. La prime, moi, je l'ai toujours pas eue, donc j'attends de voir. Ça dit que c'est gentil de la part de Macron de vouloir nous rendre hommage, mais qu'on aimerait quand même des moyens, une revalorisation de salaire, parce qu'on n'a pas compté nos heures pendant ces deux mois et demi. On ne sera pas forcément payé des heures supplémentaires. On a besoin de plus de personnel, on a besoin de plus de matériel, parce qu'on a vraiment manqué de ça, et même avant le coronavirus. Donc c'est ce qu'on attend. Moi, je pense qu'il y a plus de choses à faire qu'une médaille et un défilé.
La colère de ces infirmières dans l'Est avec Samuel Goldschmidt et l'inquiétude des jeunes Français, les 18-25 ans frappés de plein fouet par la crise économique due au confinement. Beaucoup ont vu leurs projets professionnels voler en éclats, leurs stages ou leurs embauches annulées. Un jeune sur 10 ne travaille plus depuis le coronavirus. 12 milliards d'euros mis sur la table par le gouvernement pour déplafonner et élargir les primes à l'apprentissage. 5 000 euros pour l'embauche d'un mineur, 8 000 pour les majeurs. Avec ça, un alternant ne coûtera presque plus rien à une entreprise la première année. Pour bien comprendre la galère à laquelle sont confrontés ces jeunes, écoutez ces témoignages recueillis par Dimitri Ramelot.
Dans sa chambre d'étudiant, Pierre ne désarme pas. Le jeune homme de 24 ans qui s'apprête à entrer en Master 2 tente depuis 4 mois de trouver une entreprise pour sa dernière année d'université, mais pour l'instant, rien.
J'ai envoyé, je compte plus, presque une cinquantaine de candidatures. Et j'ai beaucoup de réponses de la part de personnes qui me disent qu'il y a des réductions de postes en ce moment. Et ouais, ça m'angoisse, clairement. Et j'espère que les recruteurs laisseront un peu la place aux jeunes. Je sais que c'est pas forcément facile dans chaque boîte, mais j'ai l'impression que c'est quand même les jeunes qui trinquent.
Et s'il ne trouve pas avant l'été, Pierre se résignera à finir ses études en parcours normal. Pas envie de passer ses vacances à chercher. Et les difficultés sont tout aussi insurmontables pour Mathilde, acceptée dans son école sous réserve de trouver une entreprise.
Moi, je sais pas du tout où est-ce que je vais être en septembre. C'est-à-dire que je peux pas chercher d'appart, je peux pas savoir si je dois du coup candidater à d'autres masters, mais du coup, il y a des candidatures qui sont déjà closes. Est-ce qu'il faut que je prévoie un plan B, lequel? Qu'est-ce qui se passe si je trouve pas? Bah, j'envisage de faire, bah, du coup, un peu une année de césure par défaut, de me lancer dans du bénévolat, du service civique. Puis on est des milliers comme ça, quoi. Et c'est ça qui est angoissant aussi.
Et pour tuer le temps et le stress, Mathilde a rejoint depuis quelques jours une amie dans les vignes, les coups de sécateur le matin, les CV et lettres de candidature l'après-midi et un avenir qu'elle n'imagine pour l'instant qu'en pointillé.
Dimitri Ramelot, cette info pratique, les bureaux de poste resteront ouverts tout l'été. 200 points de service seront même ouverts dans les secteur touristique, annonce l'entreprise. L'objectif est de soutenir les commerces locaux pendant toutes les grandes vacances. L'étude de la revue scientifique The Lancet qui pointait du doigt l'inefficacité, voire la dangerosité de l'hydroxychloroquine, désormais complètement discréditée, puisque 3 des 4 auteurs de l'article ont demandé son retrait en mettant en cause ses sources. L'étude avait été critiquée par de nombreux médecins. L'OMS avait décidé dans la foulée de relancer les essais cliniques. Et puis cet hommage hier soir à Minneapolis en mémoire de George Floyd, la foule s'est tue pendant 8 minutes. C'est la durée pendant laquelle le policier est resté appuyé avec son genou sur le cou de George Floyd. Manifestation monstre aussi hier soir à Vienne en Autriche. Pour George Floyd et contre les violences policières, 50 000 personnes ont donc crié « Black Lives Matter », les vies des Noirs comptent.
Dans un instant, que se passe-t-il exactement au...
MMA.fr.
RTL Matin.
Il est 8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. Ça gronde entre Paris et Caracas. Hein.
L'opposant vénézuélien Juan Guaido serait en ce moment réfugié à l'ambassade de France. Le président autoproclamé depuis plus d'un an est reconnu par de nombreux pays, dont la France. Le camp de Nicolas Maduro, qui refuse de lâcher le pouvoir, est furieux ce matin. Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour.
On s'étonne de cette situation puisque les deux hommes semblaient s'être rabibochés il y a quelques jours.
Ah oui, Nicolas Maduro et Juan Guaido avaient du moins accepté de ratifier ensemble un accord commun sur le protocole sanitaire à suivre au Venezuela. Pour la Covid. Ça, c'était lundi dernier. Mais la crise politique a donc apparemment repris le dessus entre le chef d'État élu avec de grosses irrégularités et le chef de l'opposition qui s'est autoproclamé vainqueur de cette présidentielle et qui est soutenu, vous le savez, par une cinquantaine de pays, dont la France. D'après le gouvernement de Maduro, Juan Guaido serait donc réfugié à l'ambassade de France. Ni cette dernière, ni le Quai d'Orsay ne confirment cette information pour le moment. Mais on souligne que depuis plus d'un mois, Maduro exerce une pression énorme sur notre représentation à Caracas. Des policiers du Venezuela sont en faction devant le domicile de l'ambassadeur et ce dernier n'a plus chez lui ni eau ni électricité. Les tensions diplomatiques sont donc déjà bien visibles entre la France et le Venezuela.
Merci Bénédicte Tassard. La politique en France, ce sont les élections municipales, second tour le 28 juin et La République En Marche semble avoir bien du mal à tenir ses troupes. À Lyon, vous le savez, Gérard Collomb a fait alliance avec les Républicains et à Perpignan, alors attention, restez concentrés, oui. C'est compliqué, à Perpignan où la majorité n'a pas réussi à passer le premier tour. Le troisième de la liste En Marche, Alain Cavalière, a fait le choix de rejoindre Louis Alliot, le candidat du Rassemblement National, arrivé en tête et favori. La consigne était pourtant de se ranger derrière le maire LR sortant, Jean-Marc Pujol, arrivé deuxième, pour faire barrage, comme on dit. Mais Alain Cavalière, lui, n'aime pas les barrages. Il est avec Marie Mollet.
C'est quoi ça? C'est un barrage au Front National? C'est quoi? Hein, on a peur que ce soit les nazis qui reviennent à Perpignan. Il faut être clair. On a peur de quoi? Il est temps aujourd'hui de changer d'équipe municipale, c'est tout. Ils ont fait leur temps, ils ont eu tout le loisir de faire. Si vraiment les acteurs locaux étaient performants, on n'en serait pas là. Moi j'avais donné ma parole à Romain Gros, j'ai tenu mon engagement jusqu'au bout. Moi je ne suis pas en marche, hein. Les décisions que prend en marche, ça ne me concerne pas. Moi je reprends ma liberté. Moi je ne suis pas un petit soldat. Ce n'est pas le tête de liste qui va me dire comment je dois penser. C'est pas la présidente de région ou c'est pas le directeur d'En Marche, enfin le président d'En Marche qui décide ce qu'on doit faire à Perpignan. Moi, je marche pas là-dedans, c'est tout.
Le marcheur qui ne marche pas, avec Marie Mollet.
L'idée du jour, peut-être?
Celle d'un fabricant de chaussures roumain. Il s'est lancé dans la création de modèles taille 75 respecter, je vous donne la photo Yves, pour faire respecter la distanciation physique. Il trouvait qu'elle n'était pas assez respectée. Alors c'est assez moche, on dirait des skis.
C'est
et on se demande surtout comment on va pouvoir marcher avec.
C'est vraiment une abomination. Merci beaucoup.
Chaussures en cuir.
C'était le journal de Jérôme Florin.
RTL Matin, Yves Calvi.
Prenons à présent notre grand bol d'air quotidien, direction l'Auvergne, où la région des volcans devrait voir de nombreux touristes passer quelques jours de vacances. Dans une région où les grands espaces sont légion, bien loin de la promiscuité des bords de mer. Bonjour Guillaume Frixon.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous avez chaussé vos chaussures de randonnée et vous avez choisi de vous rendre en plein cœur des volcans pour une randonnée à couper le souffle.
Oui, alors l'objectif du jour, c'est l'ascension du puits de Pariu, un volcan au cratère parfait à 1200 mètres d'altitude. Et sur le sentier, Julien, 25 ans, me double dans un premier temps avec son VTT, avant de très vite poser le pied à terre. La montée assez raide, tout en pierre, aura eu finalement raison de sa volonté.
Il se mérite, hein?
Il se mérite, ouais, et c'est ça qui est beau, parce que dès qu'on arrive là-haut, on a la super vue. Donc c'est vraiment chouette, on lâche rien.
Car l'effort qui va vous prendre entre 30 et 45 minutes en vaut vraiment la peine, car au sommet du volcan, c'est une vue à 360 degrés sur la chaîne des puits, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Émilie et Chloé multiplient les photos avec leur téléphone.
Le pied, là, après tout ce confinement, ça fait vraiment du bien.
Et à 30 km de là, dans le massif du Sancy, le Mont d'Aura retrouvait ses amateurs de grands espaces. Bien loin des affluences de l'été, ce couple est venu marcher une demi-journée. Ils habitent à 60 km à peine d'ici.
On respire, on voit de belles choses, des fleurs magnifiques.
C'est vrai qu'en Auvergne, on est gâté de ce côté-là. On a beaucoup de montagnes et on a beaucoup de vallées, on a des rivières, on a des lacs, on peut pêcher, on peut faire beaucoup de choses.
Bon, alors évidemment, ça fait envie. Du côté des professionnels du tourisme, Guillaume, est-ce que la tendance est à l'optimisme pour l'été à venir ?
Eh bien, je suis allé à Mont d'Or Aventure, une structure qui propose des parcours dans les arbres, du canyoning, de la via ferrata, et grâce au beau temps et au déconfinement, les réservations ont repris, comme l'explique Mathilde Rioucreux.
Forcément, il y a des gens qui vont redécouvrir aussi un petit peu le massif du Sancy, qui n'était pas venu depuis 15 ans, ou... parce qu'on a tendance à toujours vouloir un peu plus et aller toujours un petit peu plus loin. Là, ça permet effectivement de redécouvrir un petit peu le coin par chez nous, quoi.
Vous avez de bons espoirs pour cette saison ?
Oui, 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 on a de bons espoirs, parce qu'on a tous besoin de sortir, de se faire plaisir.
Et c'est un peu le même soulagement du côté de la ferme de Guéry, à 1200 mètres d'altitude, où Cédric Leroy-Merlet loue une yourte isolée au beau milieu d'un pré, avec une vue tout simplement imprenable sur le massif du Sancy.
C'est l'accès à la nature tout de suite, c'est un moment de calme, de repos, un moment où on va se retrouver aussi en couple, en famille, entre amis, voilà, face au Sancy.
Le téléphone, il passe ici ?
Le téléphone passe, mais il n'y a pas la Wi-Fi, il n'y a pas de télé.
Alors vous l'aurez compris, si les conditions météo sont au rendez-vous cet été, l'Auvergne a tous les atouts pour réunir le plus grand nombre de vacanciers amoureux de nature.
Merveilleuse visite de nos volcans d'Auvergne. Merci beaucoup Guillaume Frixion. Dans un instant, nous avons rendez-vous avec...